This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De retour sur les antennes de Touchdown Actu pour un nouveau numéro consacré à la draft et aux besoins des franchises. Chaque jour, on s'intéresse donc à une équipe et à sa feuille de route, son cahier des charges, si je peux parler ainsi, pour bien préparer l'exercice 2021 et surtout bonifier la free agency. Aujourd'hui, focus sur les Los Angeles Chargers, 13e choix de la dernière draft. Comment bien entourer Justin Herbert, comment bonifier la récente arrivée du nouveau head coach Brandon Staley, pour en parler avec moi Jean-Michel Boujard et des nôtres. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg, comment ça va?
Oh bah écoute, toujours bien, on se rapproche, on est à 2 semaines maintenant de cet événement tant attendu, la draft 2021, dont on vous fera vivre, on vous le rappelle, le premier tour en direct ainsi que les deuxième et troisième tours le lendemain, donc le 30 avril. Donc on aura plein de choses à dire, plein de profils à évaluer et sur lesquels débattre. Du côté des Chargers, quelques besoins malgré tout, même s'il y a eu une free agency où ils ont été assez actifs durant cette intersaison, Jean-Michel, ça n'empêche qu'il y a quand même quelques besoins. Lesquels sont-ils? Dis-nous tout.
Bah déjà, je vais poser une question à tout le monde. C'est qui le left tackle des Chargers? Voilà. Hein? Alors, je vais vous donner la réponse. Il s'appelle Trey Pipkins. Vous connaissez? Bon, voilà. Donc, du coup, ben forcément, c'est la ligne offensive. Hein. Alors, à droite, il y a Brian Bulaga, qui est peut-être un peu vieillissant, mais qui tient bien la route. Mais il leur faut absolument quelqu'un pour protéger
Herbert.
Ils s'y
sont pas trompés. Ils ont plutôt renforcé l'intérieur de la ligne plutôt que le poste de tackle. Donc, ils doivent quand même savoir qu'il y a 2-3 bons poissons à pêcher d'ici la fin du mois d'avril.
Voilà, exactement. Ça paraît cohérent comme off-season. Ils ont pris Corey Linsley, donc le centre auquel tu fais référence. Et ils savent très bien qu'il y a beaucoup de très bons tackles à la draft cette année. Donc, je serais très, très surpris qu'ils n'en prennent pas un. Alors, déjà, au premier tour, je serais surpris. Mais dans les deux premiers tours, ça me paraît obligatoire qu'ils prennent un tackle offensif. Ça paraît obligatoire. Après, peut-être defensive end aussi, puisque Melvin Ingram n'est toujours pas re-signé.
Non.
Alors, je dis pas qu'il y a urgence. Il y a Joey Bosa. Il y a du monde. Il y a Jerry Tillery. Il y a une ligne défensif qui est plutôt correct, mais il leur faut absolument un deuxième homme. Cornerback aussi, il y a Chris Harris qui est plutôt jeune mais qui est encore très bon, mais il y a Hayward qui est parti. Et donc c'est qui son compère? Moi je le connais pas non plus, si je vais pas vous poser encore la question, mais
Michael Davis peut-être, qui a fait une bonne saison l'année passée, mais on sait pas exactement ce qu'il peut donner à long terme. Je te rejoins.
Ouais, voilà, oui, Michael Davis et puis Tevon Campbell. Bon, ok, ouais, moi je pense qu'au corner, il faut adresser ce besoin.
On sent que ça t'emballe.
Ouais, voilà. Non, au contraire, moi ça me va très bien. En tant que fan des Raiders, ça me va très bien. Mais...
Ah, t'es sûr.
Après, linebacker, bon, Kenneth Murray a pas été fantastique pour un premier tour de draft, mais il a quand même tenu sa place. Il a fait plus de 100 plaquages, je sais plus, 120 et quelques. Mais Kaiser White à ses côtés, c'est pas mal aussi. Mais je pense qu'il leur faut encore un linebacker peut-être à considérer. Alors pas dans les 3 premiers tours, mais ensuite il en faudra sans doute un. Et puis peut-être encore à l'intérieur de la ligne offensive. Puisque effectivement, mais s'ils ont signé le centre Corey Linsley, ça reste relativement faible. Hein. Je veux dire, c'est Odaya Bushi, c'est Matt Feller, c'est Scott Kessenbury. Bon, peut-être
oui,
qu'il faudrait un
autre
garde.
C'est plus des joueurs de rotation que vraiment des top. Peut-être Feller a joué un peu plus, mais c'est vrai que ouais, Bushi et Kessenbury, c'est beaucoup plus sur de la rotation à mon sens. Ouais.
Voilà, ils ont la chance d'avoir un très bon jeune quarterback. Il faut blinder la ligne offensive.
Très bien, bah écoute, on va développer tout de suite. Alors c'est vrai que pour le coup, en plus, ça va être intéressant à voir parce que pour revenir à la défense. Moi, ce qui m'intrigue de savoir, c'est dans quel système défensif ils vont évoluer. Ça va déjà définir pas mal de profils, je trouve, de joueurs qui colleraient un peu plus. Brandon Staley, on rappelle, hein, qu'en tant qu'ordinateur défensif des Rams, il jouait plutôt sur une 34. En tout cas, il avait conservé la 34 de Wade Phillips. Pour l'instant, en tout cas, sur le pass rush, il me semble qu'ils ont signé, je vais pas dire de bêtises, Kalor Fakrell, l'ancien des Packers, qui a priori...
Ah, oui.
Qui a priori, ouais, serait plus dans cette optique-là d'outside linebacker. Donc c'est pour ça que je devrais peut-être plus partir sur de la 34. Et du coup, c'est là, en effet, où, voilà, faire identifier ça. Mais je te rejoins globalement sur les besoins. C'est vrai qu'un edge rusher numéro 1 aux côtés de Joey Bosa, en tout cas pour garder un duo aussi complémentaire que ce qui pouvait être avec Melvin Ingram, ce sera pas du luxe. Et puis en effet, les postes de corner et de linebacker, il y a malgré tout un chantier relativement important au sortir du départ de Gus Bradley, du départ de Gus Bradley du côté de Las Vegas. Oui.
Mais s'il passe en 34, Joey Bosa, tu le mets où du coup? Alors je sais bien que les schémas c'est sur le papier. Ah ouais, d'accord.
Je pense.
Ouais, ok.
Profil athlétique quand même.
Oui, il est athlétique, mais on parle pas de Nick Bosa. Je veux dire, Joe Bosa, il est quand même beaucoup plus
lourd. C'est sûr, il est un peu plus lourd.
Ouais, bon, je sais pas, mais pourquoi pas.
Ou alors sur une 33, ce qui revient assez souvent, auquel cas tu relaisses sur la jouée. Bon, on va pas.
Oui,
on attendra déjà de voir les choix de la draft.
Oui.
On va pas embrouiller tout le monde, mais oui, en effet, ça pose quand même un point d'interrogation sur les besoins prioritaires. En tout cas, on commence avec la mock. Et on va laisser la défense de côté de toute façon pour ce premier tour, puisque tu prends sans trop de surprise la direction de la ligne offensive.
Ah ben oui, je veux bien qu'il y ait beaucoup de tackles offensifs de qualité cette année, mais si tu attends le deuxième tour, tu auras forcément des deuxièmes choix, même si ce sera des bons joueurs, mais je pense qu'il faut l'adresser dès le premier tour. Et moi je suis parti avec un joueur qui est vu plutôt en fin de premier tour, mais moi je le vois beaucoup plus haut que ça, c'est Samuel Cosmi de Texas. Pourquoi? Parce qu'il est très athlétique, on l'a vu encore à son pro day, là il a fait 36 répétitions avec la barre de 100 kg, il a couru en 4,84, donc il est puissant, il est rapide, et c'est ce qu'on a vu avec Texas. Là aussi, c'est pas juste un test athlétique, on l'a vu sur le terrain. En plus, on l'a vu beaucoup sur le terrain, parce qu'il a une grande expérience avec Texas, et il a démarré une trentaine de matchs, il a beaucoup d'expérience, il a joué un peu à droite, beaucoup à gauche. Moi, je trouve que c'est vraiment le joueur tackle gauche parfait.
Je me demande si c'est pas le tackle côté aveugle le plus mobile, de cette classe, même devant Sewell.
Ah ben oui, moi je pense. C'est pour ça d'ailleurs que je le pense en numéro 13 avec les Chargers, donc juste après Sewell et Slater, mais devant Dariso, devant Jenkins, devant tous les autres. Parce qu'il est très très athlétique, effectivement. Ouais.
Voilà. Et c'est sûr que oui, il avait en l'occurrence un quarterback qui courait beaucoup. Donc je pense qu'il est capable de briller dans pas mal de domaines si besoin s'en faire sentir. Même si manifestement, on s'oriente plus sur un jeu aérien la saison prochaine du côté des Chargers. En tout cas, beaucoup plus dans les airs que ce qu'il pouvait connaître du côté de Texas. On passe au deuxième tour. Et alors j'avoue que j'étais un peu étonné puisque du coup, tu restes en attaque.
Oui, c'est vrai que j'ai hésité et ça correspond pas forcément aux besoins. Mais j'ai un petit peu fait exprès aussi parce que la draft, c'est pas toujours les besoins. C'est aussi prendre le meilleur joueur disponible. C'est aussi parfois renforcer des forces. C'est-à-dire que Justin Herbert a la chance d'avoir un duo de receveurs, Mike Williams et Keenan Allen, qui est très performant. Mais si tu lui rajoutes encore une autre cible, en plus un joueur complémentaire, j'arrête le suspense, je vous donne le nom du joueur, c'est Elijah Moore d'Ole Miss. C'est un joueur qui jouait dans le slot, donc dans la meilleure conférence universitaire, la SEC. À son pro day, il a couru en 4,35. Il est très très rapide. Il est très vif, il est très productif. En 2020, il a fait 1200 yards et 8 touchdowns. Et il est complémentaire en plus de Allen et de Williams. Et moi, je trouve que du coup, là, ça ferait vraiment un sacré trio pour Justin Herbert.
Oui, non, c'est sûr. En plus, pour le coup, bon, c'est vrai qu'il a énormément joué dans le slot du côté d'Ole Miss, à mon sens. Donc, ce ne serait pas déconnant pour épauler les deux titulaires actuellement, dont la star Keenan Allen. Ouais, mais alors du coup, ouais, c'est limite, tu prends le meilleur joueur disponible plutôt qu'un besoin prioritaire, ce qui se respecte. Hein.
Ouais, c'est la démarche, en fait, avec ce choix. Parce que c'est sûr, on aurait pu partir, comme on l'a évoqué plus tout à l'heure, avec un cornerback ou avec un bon guard offensif ou même un linebacker. Mais moi, je trouve que renforcer une force, des fois, c'est très bien. Et pour lutter dans cette division qui est quand même assez tenace, hein, je veux dire, déjà, il y a Kansas City, mais on voit que les Raiders, ils font des bonnes choses. On voit que l'effectif des Broncos, en fait, il leur manque un quarterback. Alors, c'est essentiel, mais sinon, l'effectif est plutôt pas mal. C'est quand même une division très difficile. Donc, écoute, il a perdu Hunter Henry, quand même, Herbert, si tu lui donnes un trio Allen, Williams et Elijah Moore, bah, ça peut faire de très très bonnes choses. Hein. C'est aussi une façon de gagner des matchs. Hein.
Ah, tu sais, Dorlot était quarterback en tout cas. Mais c'est vrai que le tight end, t'en parlais, ça peut être une alternative. On a vu que Donald Parham a fait une bonne fin de saison 2020. Jared Cook, donc, qui retrouve arrivé, son ancien coordinateur offensif, son ancien coach du côté des Saints, Joe Lombardi. Donc, c'est sûr qu'il y a, malgré tout, a priori, les deux titulaires sur le papier, en tout cas les deux qui devraient se tirer la bourre. Mais c'est peut-être pas des solutions à long terme, encore moins Jared Cook. Donc, ça peut en effet être une possibilité, hein, un Brevin Jordan, un Hunter Long. Pourquoi pas un Pat Freiermuth s'il tombe jusqu'à eux, éventuellement.
Ouais.
Mais en tout cas, ça peut être un sujet. Moi, je t'avoue que j'étais peut-être plus allé au niveau de la défense. Si on parle d'alternative, on parlait du pass rusher. Là encore, dans l'optique de savoir dans quel système défensif, je t'avoue que par exemple, un Ronnie Perkins m'intrigue beaucoup. Alors, je sais pas exactement où il va aller. C'est vrai qu'il est, il divise beaucoup. C'est un joueur, encore une fois, qui présente énormément de, qui peut être à la fois physique et athlétique. Qui est parfois un peu foufou dans sa manière de jouer. Je pense qu'il a besoin d'être un petit peu canalisé. Donc, je sais pas si un deuxième tour, c'est un investissement trop lourd. Mais en tout cas, c'est un joueur, encore une fois, dont on, qui peut offrir pas mal de possibilités. Un profil vraiment hybride, un peu plus hybride encore, je trouve, que Joey Bosa. Et qui peut, en effet, permettre aux Chargers, pardon, d'avoir un peu plus de moyens de perturber le quarterback adverse, au niveau de l'alignement du joueur d'Oklahoma. Donc voilà, c'est peut-être plus dans cette logique-là. Après je t'avoue que sur le principe, un receveur, ça me choque pas tant que ça, mais voilà, c'est plus pour prioriser la défense éventuellement si les Chargers en ressentent le besoin, et pour mettre dans les meilleures dispositions leur coordinateur défensif Reinaldo Hill, qui est pas le plus expérimenté du poste. Donc je pense que ce sera pas forcément une mauvaise idée de lui donner pas mal d'armes, en l'occurrence, pour s'acclimater plus rapidement à sa nouvelle position. Tu considères justement un défenseur au troisième tour, dis-nous tout.
Oui, le poste de cornerback, justement. Et donc, moi, je vais vous parler de Kelvin Joseph, le joueur de Kentucky. Mm-hmm. Alors, il faut savoir que Daniel Jeremiah, d'NFL Network, a sorti une mock draft hier, et il le met en fin de premier tour. Bon, c'est un petit peu surprenant. Alors, je vais vous dire pourquoi il le met en premier tour, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il a fait 4 interceptions en 2020, il court le 40 yards en 4.34, donc il est très rapide. Il est très agressif, ce qui est un peu une marque de fabrique de la défense de Kentucky depuis quelques années. Après, pourquoi moi je le vois plutôt en troisième tour, c'est parce que ben déjà il a fait qu'une seule belle saison. Alors c'était celle de 2020, ok, mais c'est qu'une seule saison. C'est un joueur qui a commencé sa carrière à LSU et puis il a été viré de l'équipe. Donc déjà des problèmes de comportement. Ensuite cette année en 2020 il a joué, puis après il a dit non, j'arrête finalement, j'arrête la fin de la saison, je renonce. Enfin, c'est un joueur qui a un petit peu des problèmes de caractère. Donc entre le manque de production et puis les soucis de caractère, moi je pense que premier tour c'est beaucoup trop haut. Je pense que même pour le deuxième c'est un petit peu trop haut. Par contre au troisième tour, voilà, c'est un joueur qui a de belles qualités. Et pour cette unité d'arrière défensif, ça serait un bon renfort pour les Chargers.
Oui, bah au moins dans un premier temps pour jouer Nickelback, c'est sûr qu'il a largement les qualités athlétiques pour le faire. Tu le disais, après c'est sûr que des fois avec les corners de LSU, on a l'impression qu'on jette un peu la pièce en l'air. Alors c'est vrai qu'il a eu des problèmes de blessure, mais on sait par exemple qu'un Grady Williams a un petit peu souffert. Mais c'est vrai que du côté de Kentucky, en l'occurrence, il a su bien rebondir en 2020. Donc voilà, c'est un profil assez hybride et surtout hyper athlétique, je trouve, qui peut en effet, qui grimpe. De semaine en semaine, peut-être aussi de par le cas Daniel Jeremiah, en effet tu le disais, hein, qui hésite pas à mettre des joueurs au premier tour pour qu'on se dise bon, finalement il peut peut-être monter un petit peu celui-là. Mais en tout cas oui, Kelvin Joseph, c'est un nom qui revient assez vite et je serais étonné qu'il descende au troisième jour. En l'occurrence, ça peut être un bon pari, un bon joueur à couver en effet derrière Harris et Davis dans un premier temps. Ton sleeper, on revient en attaque et sur la O-line, je crois.
C'est ça, exactement, avec Robert Hensé de Notre-Dame. Et pourquoi Robert Hensé, en fait? Il fait rien de super, mais il fait tout. Il fait un petit peu tout très bien. Donc déjà, il a été très bien formé. Notre-Dame, ils sont très bons pour les linemen offensifs. Et puis, c'est un joueur qui a joué tackle droit, qui a joué guard à l'intérieur, donc ils peuvent faire les deux. Il a même été testé comme centre au Senior Bowl, et ça a été plutôt bien sorti, d'ailleurs. Donc voilà, un joueur que tu vas prendre, mettons, au cinquième tour, peut-être au quatrième, faut voir, mais je vais dire au cinquième tour, parce que voilà, il n'a rien d'élite, si tu veux, il n'est pas hyper athlétique non plus. Mais par contre, il peut faire un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment super d'avoir ce sixième lineman offensif, par exemple. Alors, je dis sixième, il peut s'intégrer comme titulaire à l'intérieur, par exemple, vu qu'ils ont des besoins. Mais c'est surtout un joueur qui peut te donner cette polyvalence. Si tu as des blessures ou si tu as des contre-performances, il peut jouer tackle, il peut jouer à l'intérieur, il peut même jouer, voilà, de partout. Mmh. Du coup, c'est vraiment très, très précieux comme joueur.
Ouais, non, je te rejoins. On sait que, surtout dans une mock ou dans une mode, pardon, on aime bien les tackles qui savent un peu tout faire. Oui, c'est sûr que Robert Tennessee, ça peut forcément être une possibilité pour continuer de protéger un peu plus Justin Herbert. Voilà, ce sera pas une mauvaise pioche. On l'a compris. On l'a compris. Tu veux dorloter Justin, tu veux qu'il s'acharne sur le backfield défensif des Raiders. Et je suis sûr que les autres de Las Vegas.
Après, ouais, mais on va le découper. C'est pas... Il y a Gus Bradley qui est là, il n'y a pas de problème. Tu vas
ah oui,
voir.
Il connaît l'animal. Il pourra se débrouiller.
C'est ça.
Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les Los Angeles Chargers. Merci Jean-Michel d'avoir été en ma compagnie. N'hésitez pas à nous laisser vos retours. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour parler notamment. Après la franchise chère à Raoul Villeroy, on va parler de la franchise chère à Victor Roulier, puisqu'on abordera les Philadelphia Eagles, désormais numéro 12 de ce premier tour de draft. D'ici là, passez une très bonne journée et une très bonne semaine à l'écoute et à la lecture de Touchdown Actu. Salut à tous.
Bye tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.